Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold on, everybody. Here it comes.
Spokzol, le podcast du gravel et du bikepacking, épisode de 201, ici Richard Delhomme. Sommeil et ultra-distance, voilà un sujet épineux qui tracasse pas mal de monde. Faut-il dormir? À l'hôtel? Dehors? Si oui, combien de temps? À quel moment faut-il s'arrêter? À quel moment s'arrêter devient contre-productif? Faut-il emmener un pyjama? Pour répondre à ces questions, j'ai dégoté un spécialiste, un vrai dur, Sébastien Réchon, double vainqueur du Tour des Glaciers et finisher de la Chartreuse Terminorum. Sébastien est également de retour des championnats du monde Raid Aventure après 927 km et 5 jours. Bonjour Sébastien.
Mais bonjour. Bonjour à tous.
Je suis hyper fier de moi, tu vois, parce que j'ai écrit l'intro tout à l'heure et j'ai pas bafouillé une seule fois alors que je n'avais pas répété.
201e épisode en même temps, t'es entraîné.
Ouais, mais alors ça quand même, hein, c'est... Bref. Alors, mon petit Seb, j'ai lu ton récit de course en Afrique du Sud, et apparemment, tu n'as pas bien supporté la chaleur au début. Et j'aimerais savoir... Alors, je suis désolé, j'attaque de but en blanc, mais non seulement j'aime bien attaquer de manière frontale, et en plus, on n'a qu'une heure, parce que tu m'as fait faux bond d'un quart d'heure. Donc, on y va. Comment gères-tu en constatant que tu es à la rupture dès le début? T'es pas bien, il fait chaud... Vous êtes en équipe de 4. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comment on fait dans ces cas-là lorsque un mec de ton calibre, dès le début d'une course, constate que c'est pas son jour? Qu'est-ce que tu fais?
Eh bien, écoute, très vite, j'alerte mes coéquipiers en leur disant que je suis un petit peu limite, que c'est pas la forme attendue ou espérée. Après, ouais. Avec l'expérience, tu t'inquiètes pas trop. Tu te dis de toute façon... moi, si ça avait été une course individuelle, j'aurais juste ralenti un peu. Et je sais que à l'arrivée de la fraîcheur le soir, ce serait reparti, puisque dans mon dernier Tour des Glaciers, c'est pareil, il y avait des journées très chaudes et je savais qu'il fallait juste que je ralentisse. Je perds en performance. Je risque pas le coup de chaud parce que quelqu'un qui fait un coup de chaud, il va finir par vomir et ça va être l'abandon à coup sûr. Moi, je sens que je perds en performance et il faut juste que je ralentisse. Alors là, quand t'es en équipe, c'est compliqué parce que t'as pas envie de faire ralentir l'équipe. Alors il se trouve qu'il y avait Adrien dans l'équipe à ce moment-là qui était super fort et on a des petits systèmes de lest, des petits élastiques. Donc il m'a accroché et il m'a permis de passer genre en running électrique un peu, tu vois. Ton camarade, il te soulage. Je suis descendu 10 pulsations puis finalement, voilà, pendant une heure, il m'a aidé. Après, on a traversé une rivière qui nous a vraiment rafraîchi puis là, je suis redescendu en température et puis c'était reparti. Donc voilà, il faut juste pas s'inquiéter et puis surtout bien prévenir, alerter et puis ralentir, juste ralentir. Voilà.
Donc j'en déduis que malgré ton expérience et malgré ton acclimatation à des conditions toujours variées, la chaleur c'est toujours un problème pour toi. Et que le petit coup de chaud et que la baisse de performance, elle te guette malgré l'âge, malgré l'expérience. Elle est toujours là.
Ouais, on n'est pas tous égaux avec la chaleur. Moi, j'ai ma partenaire Sandrine Béranger, elle adore ça. Il y en a d'autres que j'ai des collègues, dès qu'il fait chaud, c'est à coup sûr l'abandon. Donc, on n'est pas tous égaux. Ouais. Il faut juste savoir, il faut se connaître, quoi. Voilà. Et moi, je sais qu'oui, voilà, par 35-40 degrés, ça peut être pas risqué, mais ça va forcément être une baisse de performance de 10-20%. Ça, c'est sûr.
Ouais. Même si tu maintiens, parce que je sais, j'ai plus le chiffre en tête, mais je crois qu'une baisse du volume hydrique dans le corps de 2% amène à une diminution de performance de 20%, mes souvenirs sont bons. Et toi, même en amenant une hydratation correcte avec des... là, le nom m'échappe, en mettant des trucs dans notre bidon, tu vois ce que je veux dire. Même avec ça, toi, ça passe pas. Même là, 35, tu sais que tu vas ralentir même en étant bien hydraté.
Ouais, quoi qu'il en soit. Alors après, il faut effectivement boire énormément parce que sinon, là, la perte de performance est encore supérieure, comme tu le dis. Hein. Mais même avec un niveau d'hydratation, je veux dire, en fait, tu perds tellement, tu te déshydrates par transpiration, etc. Et du coup, tu peux pas boire la quantité correspondante parce que sinon, tu vas vite avoir mal au bide. On peut pas assimiler plus que 500 ml d'eau par heure ou à peine plus. Donc, du coup, tu vois, c'est un petit peu un cercle. C'est compliqué, quoi. Tu peux pas trop boire, sinon tu vas saturer en eau, tu vas te détruire le bide. Et puis, si tu bois pas assez, tu perds encore plus. Donc, faut boire régulièrement, malgré tout, puis attendre que ça passe. De toute façon, là, sur des efforts d'ultra longue distance, tu sais que les températures vont baisser, que la nuit, ça ira mieux. Enfin, moi, j'ai cette expérience-là, donc voilà, il faut bien gérer, pas se mettre dans le rouge trop longtemps, quoi.
Pas trop s'inquiéter non plus, comme tu l'as dit. Pas s'inquiéter et rester, être patient, finalement.
Ouais, il faut être patient. Toujours. De toute façon, dans tous ces efforts-là d'ultra longue distance, que ce soit à vélo, à pied, en raid, il y a forcément des moments moins bien. Et le côté psy à ce moment-là, le mental est ultra important. Faut dépasser ça, faut faire le dos rond, faut être patient, parce que tu sais qu'il y aura des heures meilleures, c'est sûr. Par contre, si tu psychotes, si tu t'inquiètes, là, c'est comme n'importe quelle douleur. Quand t'as une douleur, plus tu y penses, plus elle est importante. Et quand tu t'en décentres, quand t'arrives à t'en décentrer, à penser à autre chose, elle finit par disparaître. Enfin, c'est pareil hein, sur tous nos efforts de plusieurs jours. Faut juste avoir la bonne réaction mentale, être patient, positiver et attendre. Et attendre à des heures meilleures.
Oh mais là, quand même, dès le début, c'est pas un peu vexant quand même?
Non. Je veux dire, moi, sur 15 ans de raid aventure par équipe de 4, c'est tout le temps qu'on s'aide les uns les autres. Donc là, c'était bien. Mes coéquipiers étaient super contents de m'aider parce que ça n'avait jamais été le cas. Donc pour le coup.
Pour une fois, c'était toi, quoi.
Pour le coup, c'était chouette pour eux aussi. Et puis, ça cassait un peu un mythe. C'était parfait, quoi. Non, je revenais des Tours des Glaciers. J'avais pas la même forme qu'au Tours des Glaciers. J'étais fatigué. J'étais pas fatigué, mais j'étais pas. Voilà, c'était pas la grande forme de ma vie. Alors. Forcément, avec la chaleur, ça a accentué un peu le truc, quoi. Voilà.
Donc, ça a été une petite vengeance pour eux, finalement.
C'est ça, parce qu'Adrien, la dernière fois que j'avais couru avec lui, je l'avais tracté pendant 4 jours non-stop à la laisse. Donc là, c'était une petite... Il était content, du coup, d'inverser les rôles.
Bon. Comme je te l'ai dit il y a 2-3 jours au téléphone, je ne suis pas du tout à l'aise avec le concept de raid aventure. Est-ce que tu peux réexpliquer en quoi ça consiste? Là, en l'occurrence, la course que tu viens de faire, qui était donc c'était les championnats du monde, si j'ai bien compris. La composition et les distances. Donc il y avait du VTT, du trek, si j'ai bien vu tout ça, parce que j'étais en train de lire ton récit. Est-ce que tu peux me réexpliquer ça, s'il te plaît?
Ouais, écoute, le raid aventure, ce format-là, ce concept-là a démarré dans les années 90 avec le raid gauloise. Alors, les plus anciens, ça leur parlera parce que c'était télévisé. Enfin, c'était TF1, il y avait un gros partenariat avec TF1. C'est
une épreuve par équipe de 4,
mixte obligatoirement. Donc, il faut au moins une fille ou un garçon dans les équipes. Et c'est des épreuves d'une durée de 2 à 8, 9 jours. Donc, c'est des formats d'ultra endurance hyper long où on doit tout le temps être à 4. C'est pas des relais, on se partage pas les activités, on est tout le temps ensemble. Et on varie au niveau des activités outdoor. La base, les trois épreuves majeures, les trois disciplines majeures qui composent le raid aventure, c'est le kayak, le trek et le VTT. Donc, c'est ces trois épreuves-là. Mais on a aussi du canyon, des activités de corde, de la spéléo. Tu peux avoir du roller, de l'équitation. Il y a quelques sports comme ça annexes qui viennent parfois se greffer, qui mettent un petit peu de diversité. Et on est tout en orientation. Donc, on a des cartes. On n'a pas le droit au GPS, rien. On est vraiment à l'ancienne sur des cartes IGN ou des cartes aux 50 millièmes ou des cartes dans certains pays très obsolètes. Et donc, c'est tout en orientation avec des points de passage obligés qu'on appelle des CP, des checkpoints ou des balises. Et donc, entre deux checkpoints, des fois, il se passe 5, 6, 7, 8 heures. C'est hyper long. Et du coup, il y a des choix d'itinéraires différents que font les équipes. Donc, c'est hyper intéressant à suivre parce qu'il y a énormément de rebondissements, de surprises. Au-delà de l'aspect physique, le côté orientation fait qu'il y a des différences qui se font. Et voilà. Donc, c'est un sport. Pour moi, c'est le sport collectif par excellence parce qu'on doit toujours avancer à 4, quel qu'il soit. C'est pour ça que là, dans l'exemple qu'on donnait avant, quand il y en a qui va moins bien, il faut l'aider, il faut porter son sac ou il faut l'accrocher avec une laisse, que ce soit à vélo, à pied ou en kayak d'ailleurs, c'est toujours le cas. Et voilà, c'est un sport non-stop jour et nuit où on gère notre sommeil, notre alimentation nous-mêmes. Alors à chaque changement d'activité, on retrouve des caisses qu'on a préparées avec notre matériel et notre nourriture. Donc on est en complète autonomie du début à la fin et on choisit de dormir quand on le veut en fonction de nos besoins, de la durée de l'épreuve, etc. Donc on va en parler après, mais ça c'est une partie très intéressante. Du coup on a développé, on a testé plein de choses différentes au niveau du sommeil pour arriver à quelque chose maintenant qui est assez stable pour nous. Mais voilà, c'est le sport collectif par excellence où on découvre des territoires, des pays en équipe. On est bien sûr hors des sentiers battus. La plupart du temps, on est hors chemin. J'ai eu fait des expéditions en Australie, au Brésil, dans d'autres pays du monde où vraiment c'est la grande, grande aventure avec un grand A. Et là, tu te construis des souvenirs collectifs et des émotions collectives que tu gardes toute ta vie tellement c'est un sport. Pour moi, c'est le plus beau sport du monde. Pourtant, j'en ai fait pas mal et j'ai touché à beaucoup de sports outdoor, mais celui-là, il est par équipe, il est long, il se passe plein de choses. C'est fabuleux.
T'es pas... Bon, visiblement non, mais... puis tu l'as résumé à l'instant, mais t'es pas encore écœuré, on va dire, après 15 ans, à 51 ans. T'es pas un petit peu blasé de faire tout le temps la même chose, de crapailler dans la forêt, de dormir à moitié à poil dans la forêt, d'avoir mal au cul à vélo, de taper des hippos, des déshydrates. T'en as pas marre de tout ça? T'aurais pas envie juste de faire l'UTMB, un truc peinard, quoi?
Bah, tu sais quoi, l'UTMB, être à fond pendant 24 heures, non, ça me tente pas. Ça me tente pas parce que, en fait, ce que je fais maintenant aujourd'hui, c'est des choses où je suis en allure, c'est au niveau cardiaque, je suis en allure de confort, tu vois. On n'est jamais très haut, bah, si, pour passer une côte, à un moment donné, à vélo, tu restes sur ton vélo, tu montes en fréquence cardiaque. Mais si, globalement, tu vois, même sur un tord des glaciers, tu profites vraiment de ce que tu vois autour de toi. Un UTMB, t'es à fond tout le temps, tu regardes tes pieds, à mon avis, 20 heures sur 24, et tu profites pas tant que ça. Alors que moi, sur des épreuves de plusieurs jours, ben, je contemple, j'observe, je suis aussi dans mon effort, je suis aussi en méditation, plein de choses, mais je veux dire, oui, il y a des moments super durs, comme tu le dis, c'est pas confort, hein, il n'y a rien de confort, on a mal aux pieds, on a des douleurs au niveau des fesses, bien sûr, sur son vélo, on a envie de dormir, on a envie de se poser, de s'arrêter tranquille, quoi, mais je retiens jamais ça, parce que si tu veux, il se passe les couchers de soleil sont tellement fabuleux, les rencontres avec les animaux, la faune, observer la flore, enfin tout, quoi. Tout ça, ça me remplit, moi, personnellement, et c'est vrai que quand je sors d'un tord des glaciers, j'ai envie de faire d'autres aventures individuelles, tu vois, où il y a une sorte d'introspection qui est hyper intéressante. Et quand je sors d'un raid d'aventure comme la semaine dernière en Afrique du Sud, ben, j'ai envie d'y retourner parce que au niveau collectif, au niveau de la compétition, c'est énorme ce qui se passe et puis tu découvres, moi, j'aime voyager, découvrir les territoires, des cultures différentes et pour ça, c'est fabuleux aussi, tu vois, donc, je mets de côté, il y en a d'autres hein, qui viennent s'essayer aux raids d'aventure ou aux épreuves comme ça d'ultra longue distance et qui n'y reviennent pas parce que justement cet inconfort, ils retiennent souvent, surtout l'inconfort, le côté difficile. Moi je retiens surtout les belles découvertes, les observations, les échanges, les sensations. Dès que je franchis la ligne d'arrivée, je garde le positif et puis tout ce qui était un peu dur, je l'évacue en fait.
Bah, tout ce qui est confort, zone de confort et zone d'inconfort, on va en reparler un tout petit peu tout à l'heure. Dans ton récit du raid, tu expliques que quand vous êtes parti sur les 180 km à VTT, le parcours, d'après tes propres mots, est ultra roulant et monotone. C'est ça?
Ah oui.
Chiant, donc. Chiant, voilà. Vous aviez quoi comme vélo alors?
Alors nous, les gravels sont pour l'instant pas autorisés en raid d'aventure. Il y a un débat actuellement avec les arbitres, avec le règlement international.
Tu l'as vu arriver ma question, parce que si c'est roulant et monotone, pourquoi s'embarrasser avec des vélos qui n'avancent pas?
Ah ouais. Oui, ben écoute, il y a un débat actuellement à l'étranger. C'est vrai que nous, alors en France, on a du vrai VTT. Attention, dans les raids d'aventure en France, c'est du terrain ultra technique, où le VTT est essentiel, quoi. À l'étranger, c'est vrai que régulièrement, un gravel pourrait être bien plus efficace. Bon, pour l'instant, le règlement international ne l'autorise pas. On est sur du VTT uniquement. Oui, c'est sûr que quand tu es sur une section de 200 bornes dans la savane, les paysages sont identiques, des grandes lignes droites, tu aurais envie d'un vélo qui est un peu plus efficace. Mais bon, tu te poses pas la question. De toute façon, tu es dans la compète. On fonctionne vachement step by step, tu vois, en section après section. Parce que si tu regardes l'objectif qui est le bout de la ligne d'arrivée, à un moment donné, tu sais, c'est trop loin et tu désespères. Donc voilà, l'idée, c'est de finir cette section. Puis après, tu sais que tu prendras tes baskets, que tu iras à pied, que tu reposeras un peu tes fessiers, tu changeras de groupe musculaire. C'est ça qui est intéressant en raid aventure, c'est qu'à un moment donné, quand tu as une. Tu vois, quand ouais. vos ultras en gravel ou moi à pied, c'est qu'à un moment donné, c'est toujours les mêmes muscles qui fonctionnent, c'est toujours les mêmes. C'est pas évident. Alors que nous, en raid aventure, au bout de 20-24 heures, on va changer d'activité. Du coup, d'autres groupes musculaires, d'autres frottements, d'autres. Et ça, c'est intéressant. Ça permet de bien en partir. Surtout quand tu as dormi un petit coup, là, ou bien mangé, tu repars tout neuf quasiment, j'ai envie de dire.
Ah, attends, je reviens sur ma petite liste de questions. Alors, pareil, tu y as un tout petit peu répondu, mais j'aimerais bien que tu développes un peu cette notion de caisse à chaque changement d'activité. Ça signifie que vous posez votre vélo, ou en tout cas sur le début de la course, vous avez terminé vos 80 km de trek. Vous arrivez à une section, enfin à une zone de transition. Vous avez à manger, à boire et vous avez votre matériel qui vous attend. Est-ce que vous faites un petit ravito sur place, vous emmenez des petits trucs à manger? Comment ça se passe finalement? Ça fait un petit peu course à étapes finalement, course à étapes non-stop.
C'est un peu ça en fait. Avant la course, on a une grosse journée de préparation, voire deux, où l'organisation nous donne les sections, la durée approximative des sections. Et on a droit à deux caisses de 25 kg. Donc l'équipe, on a deux caisses de 25 kg qu'on remplit comme on veut. Et à chaque transition, on récupère une caisse ou l'autre. Et si tu veux, on a préparé dans ces caisses notre alimentation pour la transition. Donc genre, on mange un petit lyophilisé vite fait ou autre. Et on a préparé notre alimentation pour la section suivante. Donc quand on arrive, notre sac est vide. Grosso modo, si on a bien fait les choses, on a tout mangé de la section précédente. Donc on charge notre sac d'alimentation qui est prévu d'avance de la section suivante, on mange un peu, on a aussi on peut se changer, tu vois, si on a besoin, on change vite de cuissard, de short, de t-shirt, et on repart. Mais bon, pour 4-25 kilos sur une caisse que tu vas voir 4-5 fois sur les 5 jours, c'est hyper ric-rac, tu n'as pas grand-chose. Au final, quand on a rendu, au début, quand on a pesé nos caisses, elles étaient à 30 kilos, on a dû retirer 5 kilos de nourriture parce qu'on en avait trop en fait. Donc c'est pas évident, on est vachement limité quand même, hein, donc il faut qu'on ait de l'alimentation qui soit pas trop, qui soit assez légère entre guillemets. Et voilà, donc ça c'est la préparation d'avant course qui est un dur labeur, qui est pas toujours très. T'as hâte d'être dans la course parce que c'est un peu prise de tête. Tu dois pas oublier aussi ton matériel parce que par exemple si derrière tu fais un canyon, tu dois avoir préparé dans la caisse le matos canyon, donc la combinaison, le baudrier, etc. Donc il y a tout un casse-tête un peu comme ça. Et puis quand tu as deux canyons, il faut que tu poses au bon endroit parce que tu as aussi tes caisses VTT, tu peux mettre des choses dans les caisses VTT. Donc voilà, il y a toute une préparation en amont qui fait que tu réussis ta course ou pas, ou tu la plantes pas en tout cas, parce que quand tu arrives et que tu n'as pas mis ta bonne paire de baskets dans la bonne caisse ou que tu as oublié tes batteries de rechange pour ta frontale, là tu es mal, tu vois. Donc il y a plein de choses à penser comme ça, donc il y a une grosse préparation de 24-48 heures avant course. Puis après, ça doit rouler. Quand tu arrives, on se fait un petit papier aussi, un petit pense-bête, où on dit, tiens, on pose le baudrier, on récupère le sachet de nourriture pour le VTT2, on garde notre casque, etc. Tu vois, on a tout un petit pense-bête comme ça pour pas être pris en défaut.
Donc, ça fait un petit rituel aussi, une petite routine.
Mmh. Ouais, on a des routines. Bah là, c'est bien.
Tu peux revenir.
Quand tu débutes le raid aventure, au début, c'est un vrai casse-tête et tu fais des erreurs. Nous, là, on a des bonnes routines.
Ouais, en fait, bah oui. Vous prenez quoi? Enfin, c'est quoi le en lyophilisie, vous prenez quoi? Et c'est quoi le critère de choix? Voilà, ça y est. Est-ce que c'est le goût? Est-ce que c'est la qualité nutritive? Est-ce que c'est la valeur de calories par 100 grammes? Comment vous choisissez? Et qu'est-ce que vous utilisez vous?
Ouais, dans l'absolu, c'est le rapport poids-calories, tu vois. Donc j'ai envie de dire le plus léger et le plus de calories possible. Maintenant, sur 5 jours, par exemple. Tu vas pas être que sur de l'alimentation sportive, c'est insupportable. Tu vois, on est sur une alimentation, je dirais, la plus habituelle possible. Donc, on va se prendre des lyophilisés de différentes marques et on va alterner, tu vois, les plats dedans. Tu vois, ça peut être du hachis parmentier, des pâtes, etc. Mais on a aussi des petits plaisirs et c'est là que le poids nous limite. Moi, je suis très crème anglaise, par exemple. Donc, la crème anglaise, en termes de calories, c'est génial, mais ça pèse très lourd. Tu vois, et C'est pareil, on a souvent besoin de fruits, donc on prend des petits des pompotes ou des fruits en pot, là, des petits fruits en pot, mais ça pèse aussi et c'est pas hyper calorique. Donc c'est un petit peu, tu vois, on essaye vraiment d'avoir le minimum de calories, mais un minimum de plaisir aussi, parce que par exemple, quand il fait chaud, t'as intérêt d'avoir des trucs sans mastication, sinon t'arrives à rien manger, quoi. Donc voilà, c'est pas simple hein, l'alimentation, c'est bien plus compliqué pour moi que le sommeil, je trouve, dans la gestion. Après, sur des efforts comme ça, on a intérêt à pas arriver trop sec au départ. Tu vois, il nous faut une grosse réserve lipidique parce qu'on fait marcher la lipolyse, quoi qu'il en soit. On va aller puiser. Comme on est en zone de confort au niveau cardiaque, on branche assez vite. On n'a pas forcément besoin du sucre permanent. On va aller brancher la lipolyse et on va aller prendre l'énergie dans les stocks. Et donc finalement, tu vois, si t'arrives à ton poids de forme, que t'as qu'un kilo de graisse en stock, t'es mal barré, quoi. Moi, grosso modo, je perds entre 500 grammes et 1 kilo par jour d'épreuve, quoi.
Deux trucs. Ça signifie que vous ne passez absolument pas dans des zones civilisées. Vous pourriez vous dire, tiens, on vient de passer devant une épicerie ou devant un commerce ambulant. Tiens, les gars, on va prendre une mangue ou un fruit quelconque, un fruit local. Pas du tout.
Si, c'est autorisé. On a souvent la carte bleue et un peu de liquide sur nous. Par contre, si le traceur, bien souvent le traceur, il aime nous emmener dans des coins sauvages et c'est très très rare en fait qu'on traverse des villages ou des villes avec des commerces. Là, en Afrique du Sud, la semaine dernière, à un moment donné, on a traversé une petite ville, on était à la bonne heure, on s'est arrêté à une station service. Et là, je t'avoue qu'on s'est fait burger, frites, la totale. On s'en est mis plein la panse, mais on en avait besoin. Ça faisait déjà 3 ou 4 jours de raid, on en avait besoin. Donc effectivement, ça nous arrive. Suivant le traceur, c'est plus ou moins rare. Là. Je sais qu'en France, l'organisateur de Raid in France, qui est le raid le plus connu, lui, s'il peut nous éviter tout village, il le fait. Donc là, on sort pas souvent des euros pour s'acheter quoi que ce soit. Mais effectivement, tu passes devant une petite échoppe, c'est tout à fait autorisé de s'arrêter, d'acheter un coca et un paquet de chips, hein, y a aucun problème.
Du coup, pour l'eau, pareil, parce que malgré tout, bon, tu dis, là, on va y venir dans un instant. Brancher la lipolyse, super, bonne idée, mais il n'y a pas l'équivalent pour l'eau. Donc, à un moment donné, vous ne pouvez pas non plus transporter toute l'eau dont vous allez avoir besoin. Et j'ai lu que sur le début, vous avez eu un petit coup de bol, mais est-ce que c'est toujours le cas? Comment vous faites, justement, le cas échéant, pour le ravito en eau?
Alors, écoute, on a tous, on a au moins une à deux gourdes filtrantes, plus des petites pastilles pour purifier l'eau. Parce que effectivement, ouais, sur certaines sections et sur certains pays, tu peux pas partir avec 10 litres d'eau. Si, tu peux, mais bon, porter 10 kilos d'eau, là, en termes de performance, c'est pas bon. Donc, on prend l'eau, on la filtre. Il se trouve que là, au début, on était on a eu un trek dans les dunes et en bord de mer où là, il y avait absolument aucun cours d'eau. Donc, heureusement, on a trouvé une petite citerne à mi-chemin. Sinon, on était mal parce qu'on n'avait pas emmené 10 litres d'eau et là-dessus, on n'avait pas trop d'informations de l'organisation, quoi. Donc, soit tu es prudent et tu prends effectivement énormément d'eau, soit en fonction du pays traversé. Il y a des pays, parfois, on n'a aucun doute là-dessus, il n'y a aucun problème. Hein. Quand tu es dans les Alpes, je veux dire, tu trouves de l'eau partout. Et si tu as un petit peu de doute qu'il y a des animaux pas loin, bah, tu la purifies et puis tu es tranquille. Donc là, nous, ça s'est bien passé. On a trouvé de l'eau. Parfois, c'était urgent, mais on en a quand même toujours trouvé et on est bon. Voilà, ça s'est bien passé.
Et sur la lipolyse, il a fallu, à toi et tes équipiers, combien de temps pour être vraiment à l'aise avec ce passage en lipolyse, avec ce concept de flexibilité énergétique? Il vous a fallu combien de temps pour maîtriser ça? Ou est-ce que c'est plutôt cool? Ou est-ce qu'au contraire, c'est... C'est un long chemin, peu tranquille.
C'est très individuel, ça, tu vois. Là, sur mon équipe, là, on était 4. On est 2 à fonctionner comme ça, à très peu s'alimenter et à brancher la lipolyse naturellement très vite. Et puis, j'avais Quentin et Adrien, eux, ils mangent tout le temps. Donc, ils portent énormément de bouffe parce qu'eux, ils ont du mal à la brancher. Et puis, même psychologiquement, ils ne sont pas à l'aise avec ça. Avec Sandrine, nous, on s'entraîne... Moi, ça fait 10 ans que je m'entraîne. Quand je m'entraîne, même une journée entière, je prends jamais rien, en fait. Donc, si tu vas à l'entraînement, mon corps est complètement entraîné et en fait, il branche immédiatement il sait où aller chercher l'énergie et je suis très à l'aise avec ça psychologiquement. Ça me plaît en plus de pas transporter plein de nourriture. Je sais que je me ferai un bon repas le soir pour compenser. Donc c'est une question d'expérience et d'habitude, mais j'ai envie de te dire que voilà, tout le monde n'est pas, comme tu l'as bien posé, tout le monde n'est pas à l'aise avec ça. Et pourtant, je suis sûr que c'est une question. Je suis sûr que tout le monde peut fonctionner comme ça, à condition d'avoir des réserves quand même, hein, parce que j'ai certains collègues qui sont hyper secs. Je vois bien qu'ils ont zéro réserve, donc du coup là, eux, ils ont besoin d'un apport régulier. Mais voilà, c'est très individualisé. C'est une question d'entraînement aussi, d'habitude. Au début, dans les années 2000, ben je mangeais comme tout le monde, je prenais des gels, des bars, etc. Et puis petit à petit, je m'en suis passé. Après, sur 5 jours, t'es obligé de manger quand même de temps en temps, bien sûr. Mais la dépense énergétique est bien supérieure à l'apport calorique, moi, sur mes courses. Ça, c'est clair. Là, j'ai fini le Tour des Glaciers. Je sais pas combien je pesais, mais bon, moi, je suis à 72, mon poids habituel. J'ai dû finir à 68 le Tour des Glaciers, tu vois. Mais bon, c'est pas, ah ouais, pas un problème. J'ai la réserve, quoi. Voilà.
Il va falloir que j'aille la faire, cette course, moi. J'ai de la réserve. Je pense que je peux tenir 3 mois à l'aise.
Mais tu sais que c'est un peu à la mode.
Je peux le faire 4 fois de suite, le Tour des Glaciers, je crois.
Il y en a qui partent randonnée à jeun, là, qui ne mangent rien pendant plusieurs semaines. Là, il y a des tendances, là. Bon, il y a un peu de tout, quoi.
Ouais. Toi, quand tu pars sur tes longues journées d'entraînement, je suppose que tu prends un petit déj et qu'après, tu laisses passer. Tu fais comment, en fait? Une journée type qui ressemblerait à une belle journée de lipolyse, ça ressemble à quoi?
Ouais, c'est ça. Bah, par exemple, moi je suis enseignant. Le mardi, j'ai pas de cours la plupart du temps. Donc le mardi, c'est ma séance longue. Ouais. Et du coup, je me fais un bon petit déj et puis je pars sur le Ventoux, par exemple, tu vois, et toute la journée, je crapahute sur le Ventoux. Et je suis en allure de confort. Pareil, attention, hein, si je fais de l'intensité et tout, c'est pas la même chose. Mais si je pars faire une journée rando-course allure confort sur le Ventoux, ben, je vais revenir à 17h et puis je me fais un bon goûter et un bon repas juste derrière encore le soir, tu vois. Mais le fait de ne pas manger, c'est quelque chose qui ne me perturbe absolument pas et je sais que de toute façon, c'est pas un problème. Et voilà, donc c'est ça, une journée un petit peu comme ça. Après, quand je fais des entraînements d'intensité, là, je vais me prendre des petits trucs parce que forcément, là, tu as besoin d'un apport énergétique. Là, tu peux pas faire d'intensité si tu n'as pas un peu d'énergie disponible immédiate, quoi.
Ouais. Oui, j'avais oublié, ouais, que t'es au niveau du Ventoux. Ben, je t'en ferai signe. Moi, je roule beaucoup sur la montagne de Lure.
Eh ben oui. Petite sœur. Bah, y a un truc qui est super, c'est montagne de Lure Ventoux par les crêtes que j'ai fait une fois. Là, ça, c'est un beau cheminement.
Ah ouais? Ça doit être marrant, ça. Bon, à vélo, je pense pas que ça passe. Ah non. Mais à pied, ça doit être magnifique.
Ouais, clair.
Ça passe pas à pied, non. À vélo.
Non, à vélo, non.
Non, ok. Tu sais quoi, je vais avancer tout de suite sur la question de la zone de confort, parce que... ouais, voilà. Bon, je vais relire la question complète, hein, même si j'ai déjà fait la blague tout à l'heure. Tu m'as fait beaucoup rire dans l'épisode de la bande AD+, en expliquant que l'UTMB, c'est quand même super cool avec tous ces ravitaux. Est-ce que tu as une idée de jusqu'où va ta zone de confort et dans quelle situation tu frôles ou mets quelques pieds dans ta zone d'inconfort? Et là, tu y as répondu un tout petit peu au niveau alimentaire, mais ta zone d'inconfort, elle commence où? Qu'est-ce qui te rend perplexe ou qu'est-ce qui te rend nerveux comme situation ou comme condition?
Zone d'inconfort, tu vois, par exemple, on en parlait, c'est par exemple une journée très chaude où sur le Tour des Glaciers, je suis avec l'Italien, la Peter Kinzel au début et on fait route ensemble, mais il se trouve qu'en pleine chaleur, le premier jour, je le sens, il est plus à l'aise que moi. Ben, à vouloir rester avec lui, là, je me mets en inconfort, tu vois, je sens que je suis plus dans le, il y a un côté pas plaisir, quoi, tu vois, où je suis un peu trop loin dans l'effort et je sens que c'est pas, là, je rentre dans une zone d'inconfort où il vaut mieux vite que je ralentisse. D'ailleurs, je lui avais dit à Peter, je lui dis, écoute, pars parce que moi, là, ça va un peu trop vite pour l'instant. Il voulait rester avec moi, mais j'ai insisté un peu, quoi. Et, une zone d'inconfort, elle peut être, avec les conditions climatiques, tu vois, des conditions climatiques très compliquées. Quand j'ai pris un orage la dernière nuit, là, t'es forcément un inconfort. Après, t'as pas le choix que de pas, qu'il faut s'en sortir, quoi. Donc là, la situation est complètement inconfortable, mais il faut surtout pas prendre de mauvaises décisions. Il faut surtout pas, il faut continuer à avancer et puis trouver une solution pour s'abriter ou tu vois là, il faut être dedans, quoi. Là, il faut y aller, quoi. Donc il y a des zones d'inconfort en ressenti, il y a des zones d'inconfort extérieures qui sont liées à de la météo, des choses comme ça. J'y suis rarement en zone d'inconfort. Si t'as des zones d'inconfort aussi avec des douleurs importantes au niveau des pieds ou des choses comme ça, bon là c'est pareil, t'as pas trop le choix que de faire le dos rond et de faire avec. Mais bon, sinon en termes de confort, d'effort cardiaque, tu vois, d'intensité d'effort, là c'est vrai que je connais bien l'intensité, en tout cas le Tu ressens quand tu es en zone de confort, tu sais que tu peux durer des heures et des jours et des jours. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper appréciable en fait. Quand tu es dans cette zone-là et que tu te sens bien et que tu sens que tu avances à un bon rythme en plus. Mais la zone d'inconfort n'est jamais très très loin.
Ouais. C'est peut-être justement trouver la difficulté, c'est peut-être de trouver cette frontière, un petit peu cette zone un petit peu limite entre. Je suis quand même en zone de confort, mais si j'accélère un tout petit peu, là je bascule.
Ouais, alors moi je fonctionne sans cardio, tu vois, je regarde pas le cardio, tout ça, je suis vraiment à la sensation. Vraiment, ouais. Et je pense que c'est ça qui est important, parce que le cardio c'est peut-être pas la seule donnée, tu vois. Et c'est une bonne donnée, attention, hein, mais surtout pas la seule.
Surtout après deux trois jours, c'est peut-être plus très fiable. Ouais. Je me suis posé la question récemment et je me suis dit que finalement. Travailler, parce qu'on réfléchit beaucoup en termes de volume kilométrique, d'heures, de dénivelé, pour préparer un truc, mais aussi parmi les trucs qu'on bosse peut-être moins, auxquels on pense peut-être moins, c'est justement cette notion de zone de confort, zone d'inconfort, et repousser la zone de repousser, élargir le diamètre de notre zone de confort. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Parce que finalement, l'idée, comme tu l'as dit, c'est de toujours rester en confort. D'être bien, d'être content, et là ça dure longtemps.
Bah sur tes épreuves d'ultra, c'est à mon avis là, ce qui est très important. Sinon tu n'y reviens pas, il faut qu'il y ait du plaisir en fait. Et quand tu es trop en intensité ou en inconfort, le plaisir n'y est plus. Et s'il y a trop de moments comme ça, bah, tu n'as pas envie d'y revenir dans les ultras. Donc c'est vraiment la base effectivement de trouver un petit peu cette allure qui fait que tu es vraiment dans le plaisir de l'effort. Quoi. Et je dirais que oui, l'entraînement, oui, les sorties longues d'entraînement, mais ça remplace jamais la compétition. Et la course en elle-même ou le défi que tu vas te créer, parce qu'il n'y a pas que en compétition, je veux dire, moi j'ai eu fait des traversées en mode record, notamment des Alpes, où là il n'y a pas la notion de compétition, c'est juste toi avec un chrono par exemple. Mais il n'y a rien qui remplace plus ça en fait. C'est, ton corps, il va être marqué, il va avoir cette expérience, ton mental va avoir cette expérience, ton cerveau va avoir connu ça. Et en fait, à chaque nouvelle expérience, tu as affiné un petit peu tes connaissances de toi, de cette zone-là où tu es bien, et tu rebondis de course en course. Moi, aujourd'hui, vous voyez, je trouve que je suis trop âgé, mais en même temps, j'ai l'avantage d'avoir une sacrée expérience, de me connaître par cœur, et de bien gérer tout type de situation qui se présente devant moi. Donc, je dirais que je conseillerais à moi aux plus jeunes de prendre le temps, de pas hésiter à se planter aussi, et chaque expérience va permettre d'avancer, et de mieux gérer ses efforts d'ultra longue distance, petit à petit, quoi. Et de mieux se connaître aussi. Et ton corps, moi, je crois beaucoup. L'entraînement, à un moment donné, moi, tu vois, je m'entraîne plus trop beau. Je trouve que je m'entraîne pas beaucoup. Parce qu'en fait, je m'entraîne juste ce qu'il faut pour être en forme. Et après, c'est l'expérience. Après, c'est mon corps, il est marqué, il connaît, quoi. Il sait faire. Et mentalement, je sais ce dont je suis capable de faire. Et du coup, c'est beaucoup plus facile, en fait. Donc voilà, c'est l'avantage de l'âge, ça, c'est l'expérience. Et l'expérience, il faut le construire petit à petit. Donc pour construire, il faut y aller, quoi. Il faut pas hésiter à essayer de dépasser ses limites, à se lancer des défis qui sont un petit peu supérieurs si on en a envie. Faut pas hésiter à y aller. Moi, j'aurais jamais imaginé ce que je fais aujourd'hui il y a 20 ou 30 ans en arrière quand je faisais du sprint. Je faisais du 110 mètres haies, du 400 mètres haies. Moi, quand j'ai commencé ma carrière sportive, t'imagines bien, on est aux antipodes au niveau énergétique et en termes de qualité, quoi. Et ben petit à petit j'ai eu envie et je me suis pas mis de frein, de limite. Je suis allé vers des défis qui me faisaient envie. Et puis finalement mon corps s'est adapté et mon mental aussi a fait que ça m'a permis de faire ça, tu vois. mais c'est hyper intéressant, hein, l'évolution de son potentiel au fur et à mesure des années quand on ne se fixe pas de limites, c'est vraiment chouette ça.
À l'instant, tu viens de dire que tu te trouves trop âgé, mais je me permets de te... Bon, tu le sais, tu as 51 ans, mais ça va quand même. Qu'est-ce qui te chiffonne actuellement avec le fait d'avoir 51 ans? Tu perds tes cheveux?
Ouais, ça c'est sûr. Tu perds la vue, tu vois, tu perds les cheveux, mais ça je m'en fous un peu. Quoique perdre la vue, ouais, ça, la presbytie en orientation, c'est pas top. Hein. Je t'avoue que c'est un peu galère la nuit notamment. Non, mais franchement, je vis des super belles années, mais en même temps, je sais bien qu'elles sont un peu comptées ces belles années parce que je me vois pas avoir ce niveau de performance encore là dans 10 ans, ou alors je suis vraiment pas normal, quoi, tu vois. Donc, c'est juste que, tu vois, j'aimerais en avoir 10 de moins pour me dire que j'ai un peu plus de temps devant moi pour faire encore des beaux projets, des beaux défis à ce niveau-là. Moi, bon, je suis pas à plaindre, hein, je suis très content de ce que je vis là, mais 51 ans, voilà, c'est quand même un certain âge, tu vois.
Ouais, dans 9 ans, t'as 60 ans, quoi. Voilà, faut le dire ainsi.
C'est ça, tu vois. Alors, je sais plus à quel âge Marco Olmo il a gagné ses UTMB, mais j'en approche, quoi.
Bah, il n'était pas frais non plus, mais il n'était pas tout jeune quand même, mais bon. Est-ce que ça signifie que, je fais une toute petite parenthèse et après on va aller sur le sommeil, ça signifie que, est-ce que tu as un petit regret quand même quand tu vois l'évolution du sport, l'évolution du trail, de l'ultra-trail, même de nos disciplines à vélo, est-ce que ça contribue un petit peu à ce regret de ne pas avoir 10 ans de moins et de te dire, putain, si j'avais 10 ans de moins, je leur mettrais une de ces branlées? Peut-être pas en ces termes-là, peut-être que tu choisirais un terme plus élégant, mais en substance, c'est ça.
Je dirais que j'aimerais avoir 10 ans de moins pour pouvoir multiplier d'autres projets, tu vois, avoir plus de temps pour d'autres projets avec le physique qui va avec pour les réaliser, tu vois. J'avais pas une grosse VO2 max, genre, même, tu vois, même avec 10 ans de moins, je pourrais pas trop jouer le top 5 sur UTMB, je pense pas. Je suis vraiment allé dans des épreuves qui me conviennent, c'est-à-dire sur l'ultra endurance parce que j'ai une extrême, j'ai un gros potentiel en endurance, tu vois. Je suis capable de durer, je suis comme une pile Duracell, tu vois. Mais après, je pourrais, même en m'entraînant spécifiquement il y a 10 ans pour un UTMB, je pense que j'aurais été quand même un poil limité. Puis j'étais sur le raid aventure, j'étais très content, tu vois. Je suis venu sur le trail un peu tard là, mais j'ai pas de regrets parce que j'ai construit beaucoup d'amitiés, beaucoup de souvenirs avec plein de gens sur ces raids d'aventure et j'ai zéro regret sur l'évolution de ma carrière sportive. Voilà. Il me reste encore quelques années pour explorer d'autres choses. Je vais en profiter. J'ai pas de regret de pas être au départ d'un UTMB pour jouer un bon classement. L'UTMB, bon, je le regarde comme tout le monde, hein, mais ça me fait pas rêver. C'est un peu du sport business aussi et c'est pas le trail que j'aime. Moi, je préfère aller sur un Tour des Géants où c'est très familial malgré tout, ou un trail comme l'Échappée Belle, tu vois. Il y a des trails en France qui sont un petit peu plus intimistes, ça me correspond mieux. Tu vois, nous, le raid aventure, on n'est absolument pas médiatisé, c'est un microcosme. Ça me convient bien aussi, tu vois. J'aime ce côté un peu, on le fait pour nous, entre nous, et pas forcément pour être sur les chaînes de télé et autres, tu vois.
Mais souvent, dernièrement, on compare beaucoup le développement du gravel, du bikepacking et surtout donc de l'ultra avec celui de l'ultra trail, en disant que les trajectoires sont assez similaires. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que finalement, l'ultra trail comme l'UTMB ou les grosses courses aux États-Unis ont un format hyper télégénique finalement, il est assez quand même facile de mobiliser des équipes TV. Et de mettre, par exemple, Miguel Martinez sur un VTT et de le faire pédaler derrière les coureurs de tête. En ultra, à vélo, à part pour les courses gravel très courtes, style Coupe du Monde et Championnat du Monde, je ne vois pas du tout, justement, le même parallèle, comme pour le raid aventure, finalement. Ce sont des disciplines d'ultra-endurance, finalement assez proches dans leur ADN. Mais comme tu l'as dit, le raid aventure reste confidentiel et j'ai bien peur que nous aussi, l'ultra à vélo, tant mieux ou pas, je n'en sais rien, mais en tout cas reste un peu confidentiel.
Non, tu sais, les médias, ils aiment le suspense, ils aiment le spectaculaire, c'est la tendance actuelle. Effectivement, un UTMB, ça reste assez court comme format et puis tu as des retournements de situation, tu as un suspense au niveau du résultat. qui fait que c'est vraiment télévisuel. Et c'est, moi, je crache pas sur l'UTMB ou les grosses courses aux États-Unis. Hein. C'est très bien, ça montre aussi que notre sport existe. Et je trouve que le trail, c'est magnifique. Tu prends une paire de baskets, tu vas courir dans la nature. Il n'y a pas besoin de gros moyens, tout le monde peut le faire. Bon, c'est chouette qu'il y ait des épreuves comme ça, malgré tout. Hein. Je voudrais pas qu'on croie que je trouve ça, que ça n'a rien à faire dans notre monde. L'UTMB, il a sa place et tant mieux. Après, oui, sur des courses de 4-5 jours, je dirais que le raid aventure, pour moi, il aurait sa place parce que, avec le côté orientation, il y a un suspense, il y a des retournements de situation qui sont assez intéressants et il y a une variété d'images aussi. Tu peux faire des super belles images en raid aventure entre le kayak, le VTT, le trek, les activités de cordes, de canyon. Il y a vraiment des magnifiques images à faire. Après, sur un tour des glaciers 5 jours ou sur un ultra en gravel de 5 jours où finalement il y a peu de retournements de situation, c'est normal qu'il n'y ait pas un public potentiel, tu vois, ça ne m'étonne pas trop.
Non, c'est pas hyper haletant, hein, quand
c'est
même.
Ça.
Hein. Quand même. Bon, je te propose qu'on en vienne au cœur de notre sujet du jour, donc le sommeil. Est-ce que tu saurais faire un top 3 de tes plus belles explosions ou galères à cause du manque de sommeil ou une mauvaise gestion de ton sommeil ?
Écoute,
trois beaux souvenirs, trois belles explosions, trois belles anecdotes.
Ouais, écoute, en Afrique du Sud, en 2013, on est sur la dernière nuit, au bout de 4 ou 5 jours, je sais plus, là, ça doit être la 4e nuit. Et puis, on est à pied, et puis, on est à la bagarre avec des Suédois, des Américains pour la victoire. Et là, on grimpe, on arrive dans le brouillard, on est en altitude, et puis là, on comprend plus rien, on a sommeil. Notre boussole fait des ronds parce qu'on est sur une roche magnétique. Et là, tu vois, on n'a pas d'autre choix que de s'arrêter de dormir. Donc, on plante une petite tente qu'on avait obligatoirement à ce moment-là. Et puis, c'est une tente pour une personne. Il faut qu'on rentre à 4, tu vois. Donc, on se met à 4 sur la tranche, là. Et là, on dort. Là, on dort pendant 2 heures. Et au petit matin, ça allait mieux, quoi. Donc, ça, c'est un exemple. J'en ai plein, des petits moments comme ça où finalement, tu te dis... Bon, non, on dort pas tout de suite, on continue, puis tu fais une méga erreur en orientation derrière parce que bah, t'as pas vu le bon chemin, tu t'es trompé. J'en ai pas d'autres en tête comme ça, mais c'est si une fois au Brésil, pareil, au Brésil, on est dans la jungle et puis on est super fatigué au bout de la 3e nuit, on a quasiment pas dormi encore, tu vois. Et puis on trouve pas un chemin qui est assez évident, et puis on perd 2-3 heures, on se perd, on finit par dormir avec notre moustiquaire de tête au milieu des. Par terre dans la jungle là pendant 2 heures, tu vois. Donc il y a eu quelques moments forcément pas simples. Après, nous, en raid aventure, on n'a pas toujours les bonnes conditions pour dormir, c'est-à-dire que on va en parler, quoi, mais choisir de dormir, c'est bien, mais si tu es au milieu de la jungle dans un terrain hostile, où est-ce que tu te poses et est-ce que tu vas vraiment bien dormir sachant qu'il y a du danger autour, quoi. Donc j'ai pas mal eu de moments où le sommeil nous a coûté du temps, ou voilà. Après, depuis que je fais des trucs solo, je le gère assez bien et j'ai pas eu de crash ou de problème parce que je l'anticipe, du coup. Je sens qu'il est temps de s'arrêter, il faut le faire absolument et je le fais avant qu'il y ait une erreur ou avant que je ralentisse trop, que je perde trop de temps, quoi.
Alors, venons-en à l'essentiel. Dans les premiers messages que l'on a échangés, tu m'as dit que tu as beaucoup travaillé avec le docteur François Dufauret. En quoi consistait son intervention ? Donc, il est spécialiste du sommeil et a travaillé avec beaucoup d'athlètes et sportifs de renom et sur cette question du sommeil, que ce soit la privation ou au contraire le sommeil au service de la performance.
Bah écoute, on a travaillé dans l'empirique d'abord. On a cherché, nous, on a testé pendant des années. Puis à un moment donné, effectivement, il nous a fait une conférence et il nous a donné son point de vue qui n'était pas très très éloigné, j'ai envie de dire, de ce qu'on avait déterminé par notre expérience, quoi. Donc c'était hyper intéressant. Il nous a parlé donc des trois types de sommeil, hein, léger, paradoxal, profond. Et il nous a parlé de cycles. Il a raisonné en cycles. Et il nous a dit, écoutez, pour vos petites siestes flash, grosso modo, l'idéal, c'est entre 5 et 20 minutes. Mais et puis pour des repos plus importants, l'idéal c'est des tranches d'1h30, parce que sur 1h30 on a un cycle complet et c'est vraiment très important parce qu'il faut vraiment qu'on ait ce cycle complet. Et c'était marrant parce que Il y a eu des fois pendant nos raids où on décidait de dormir 45, 50 minutes, une heure, et on se réveillait super mal. C'est-à-dire que tu te réveilles, tu étais en plein sommeil profond, et là, tu es dans le gaz et tu viens de t'arrêter pour dormir, donc tu as perdu du temps, et tu repars au mauvais moment là, de ton sommeil, et en fait, tu continues à pas avancer. Donc finalement, j'étais pas très surpris de ces propositions, et ça nous a conforté sur le fait que voilà, l'heure et demie, là, c'est vraiment un bon créneau. Et du coup, là, ça fait depuis son intervention, c'était il y a 2-3 ans, là, on s'est fixé là-dessus. C'est-à-dire qu'on fait des cycles d'une heure et demie toutes les 24 heures. Bon, souvent, la première nuit, on ne dort pas, surtout, ça dépend de l'horaire de départ, quoi. Mais sinon, voilà, l'idée, c'est ce que j'ai appliqué aussi sur le Tor des Glaciers ces deux dernières années. C'est-à-dire des cycles d'une heure et demie. Et dans le reste du temps de la journée, quand il y a des petits moments où je sens que la vitesse diminue trop ou quand l'équipe avance moins bien collectivement, eh bien on fait des siestes flash entre 5 et 20 minutes. Ce qui nous permet, des fois juste 5 minutes te permet de repartir bien pendant 2-3 heures. Des fois 20 minutes te permettent de finir la nuit, parce que des fois tu vas dormir 1h30 en début de nuit, mais sur le coup de 4h, 5h du matin, tu vas à nouveau plonger un peu. Et là tu prends juste 20 minutes, et ça te permet de finir la nuit, et après avec l'arrivée du jour, tu passes la journée sans problème derrière, sans baisse de régime. En tout cas, sans que le sommeil te fasse baisser de régime. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est stabilisé dans mon processus, là, et qui me va bien, qui me convient bien, en plus auquel j'ai confiance. Parce que quand tu as un spécialiste du sommeil qui te dit, bah, il faut faire comme ci, comme ça, ça te conforte un peu. Et du coup, bah, tu te dis, bon, bah, le mec, il a étudié le truc, c'est bon, quoi, on peut lui faire confiance, quoi. Donc, voilà, c'est très intéressant. Après, c'est compliqué dans une gestion à 4. Bon, on peut en parler si tu veux. En tout cas, moi, individuellement, sur un Tor des Glaciers où on part à 20h.
Individuellement, oui, parce que nous, on ne roule pas à 4. Donc,
Quand tu pars à 20h sur une course, tu as fait la sieste, tu as bien dormi. Donc, du coup, la première nuit, tu la sautes sans problème. Passe la journée derrière. Et voilà, au bout de 24h, et quand tu sais que tu pars pour 5 jours, c'est bien de faire un premier cycle de sommeil au bout de 24h assez rapidement. Pour régénérer, pour te reposer musculairement, psychologiquement, tout. Et puis après, ça repart, et ainsi de suite, quoi. Voilà.
Alors là, ça c'est entre guillemets la théorie. Oui. Mais comment tu sens arriver, à quel moment tu décides vraiment que tu dois t'arrêter, enfin, que tu vas t'arrêter, ou est-ce que tu dois t'arrêter? Est-ce que tu te dis, je m'arrête au bout de 24 heures? Je m'arrête à ce ravito ou dans cette zone-là, ou est-ce que tu attends vraiment de t'écrouler? Parce qu'il y a aussi le danger de « je veux m'arrêter, mais je suis excité, je n'arrive pas à dormir, et puis finalement, je m'effondre, bah, comme tu l'as dit, 30 minutes, 40 minutes, et puis je me réveille vaseux et je repars aussi collé que j'étais avant, avant de m'arrêter. » La difficulté, elle est là, finalement. C'est pas de se dire... il faut que je dorme une heure et demie, ça tout le monde le comprend, ou de faire une micro-sieste, c'est de réussir à s'arrêter au bon moment pour dormir ces 20 minutes ou 7 heures et demie.
Ouais.
Enfin, j'ai l'impression que c'est ça, en tout cas. Pour moi, c'est ça, pour le moment. Le problème, il est là, c'est sûr.
En fait, t'as ton schéma d'avant-course. Donc, ton schéma d'avant-course, tu t'es dit, bon, bah, là, par exemple, sur un Tor des Glaciers, tu te dis, bon, là, je vais dormir à ce refuge-là. Je vais dormir à ce refuge-là. Ouais. Mais si t'arrives à ce refuge-là et puis que t'es en pleine bourre, aucun intérêt de t'arrêter là, tu vois. Cette année, j'avais prévu de dormir au refuge Chabot, et puis il s'est trouvé que j'étais en avance par rapport au temps d'avant, de l'année dernière. Il était un peu tôt. J'étais en pleine bourre, je venais de larguer l'italien, et là, je me suis dit, c'est pas le moment de t'arrêter, quoi. Donc là, j'ai continué, et j'ai prolongé 4 heures de plus avant de dormir au refuge d'après. Et je te dis ça, c'est qu'il faut, il y a ton plan de départ, mais il faut absolument s'adapter aux conditions du moment. Si tu t'arrêtes et que t'as pas sommeil, ben lui, le chrono, il continue à tourner, et c'est complètement un produit, c'est complètement ridicule. Si tu mets une demi-heure à t'endormir, ça sert à rien. Et puis d'un autre côté, il faut aussi que tu aies les bonnes conditions pour dormir. Pour un cycle complet d'une heure et demie, c'est quand même bien d'avoir un petit matelas sympa ou un endroit au sec, au chaud, tu vois. Donc, y a ce facteur-là aussi qui est important. Des fois, ça vaut le coup de pousser une heure ou deux, parce que tu sais que tu vas trouver des super conditions après. Et que ton sommeil, il va vraiment être réparateur et productif. Donc, y a le schéma de départ, et puis il y a l'adaptation en permanence. Parce que, alors il y a des fois aussi, voilà, pour les siestes flash, c'est différent. Les siestes flash, ça tombe dessus. Des fois, tu as un voile d'un seul coup, où tu vois moins bien, et puis tu sens que tu avances 1 ou 2 km/h moins vite d'un seul coup. Et là, faut pas trop attendre parce qu'en fait, bah, au lieu de marcher à 5-6 km/h, tu vas marcher à 3-4, tu vas vite perdre énormément de temps. Donc là, pareil, en fonction des conditions, bah, tu es sous la pluie, il n'y a aucun abri, tu ne vas pas t'arrêter sous la pluie non plus, tu vas te frigorifier au bout de 2 minutes, ça ne va pas le faire. Mais tu es en pleine journée, en plein soleil, tu trouves un arbre à l'ombre, moi, bah, je m'allonge immédiatement, tu vois. Dès que je sens que ça me tombe dessus avant de perdre du temps, parce que c'est 20 minutes finalement, tu vas t'arrêter 20 minutes. Mais dans les 2 heures qui suivent, tu vas les rattraper ces 20 minutes. Tu les aurais perdu davantage si tu avais continué sans dormir. Et c'est là qu'il faut être super serein avec ça. C'est-à-dire que s'arrêter, certes, tu n'avances plus. Moi, dans toutes mes épreuves, je m'arrête que pour manger ou dormir. Et encore, des fois, je mange en avançant pour optimiser au maximum. Mais l'arrêt complet, il doit vraiment être soit pour une alimentation importante, style le refuge, tu as fait un bon plat ou autre, quoi, soit pour dormir. Et tu dois dormir immédiatement. Donc, l'appel, tu sais, on a tous dans nos journées l'appel de la sieste. Des fois, là, t'as fini de manger le midi, puis d'un seul coup, ça te tombe dessus, tu t'allonges. Si tu t'allonges à ce moment-là, tu pars immédiatement, c'est génial. Mais en course, c'est pareil. Il y a des moments où je sens que là, ça me tombe dessus. Si les conditions sont propices à côté, je m'arrête immédiatement. Et sans me dire, oh là, tu vas perdre 20 minutes, les boules, ben non, parce que tu sais très bien qu'à ce moment-là, tu vas les perdre. En continuant à avancer, en refusant de t'arrêter pour dormir, tu vas perdre beaucoup plus au final, quoi.
Oui, ça c'est clair qu'on peut perdre énormément bah, en temps et puis aussi des fois, bah, malheureusement, bien pire. Tu peux
perdre, tu peux blesser.
Bah, nous, en tout cas, on peut faire une fausse manip, casser un truc et puis là, bah, là c'est pas 20 minutes que tu perds. Hein. T'éclates un dérailleur, et ben voilà, bah, tu peux rentrer.
Je crois que c'est encore plus prégnant à vélo. Je crois que c'est encore plus prégnant à vélo parce que moi, je le vis du coup en réel aventure. Et ce que vous vivez, vous, dans les ultras en gravel, c'est-à-dire que dormir en marchant, c'est presque possible, j'ai envie de te dire. Tu vois, avancer un peu lentement, tout en dormant, ça nous arrive en équipe quand il y en a qu'un qui a sommeil et pas les autres. Bon, ben ils s'adaptent. Mais à vélo, tu perds le contrôle de ton vélo. Là, sur le coup, là, la semaine dernière en Afrique du Sud, Quentin, à un moment donné, il s'endort sur son vélo, il me fait une queue de poisson, il manque de me renverser, il va dans le fossé à côté. Tu vois, juste, il s'est endormi 2 secondes et il est parti. Donc je dirais que c'est encore plus important à vélo quoi, de saisir l'opportunité de dormir dès que ça se présente, parce que là tu peux te mettre en danger tout court quoi. Tu peux te mettre en danger, finir dans le fossé, prendre une bagnole ou j'en sais rien quoi.
Malheureusement c'est déjà arrivé. Comment on dort en marchant, ça m'intéresse ça.
Un peu comme un automate en fait, même les yeux ouverts, c'est un peu bizarre. Alors quand tu es tout seul, bon je te dis, il vaut mieux s'arrêter pour dormir. Quand tu es en équipe, et ben t'as ton pote qui t'accroche avec ta laisse et puis tu suis un peu comme un automate et puis t'as presque les yeux ouverts mais t'as quand même ton corps qui se repose. C'est un peu bizarre. C'est quand tant que tu l'as pas vécu, c'est difficile à comprendre. Mais
c'est quand même là qu'on se rend compte que le corps humain est quand même fantastique parce que ça veut dire qu'on est quand même capable de faire deux trucs radicalement opposés. Mais de les faire quand même, quoi, d'avancer, d'avoir un minimum de degré de conscience, mais malgré tout de se reposer quand même. C'est quand même assez fantastique. Bah,
c'est-à-dire qu'en fait, tu vas garder la vision pour éviter de te casser la gueule, mais tout le reste est en pause, quoi. Et puis, tu marches un peu comme un automate, aidé quand même un peu par ton collègue. Mais je l'ai vécu plusieurs fois, c'est assez étonnant ça. Et puis d'un seul coup, hop, tu te réveilles, tu fais ah tiens, qu'est-ce qui s'est passé là quoi. Là, ça fait bien une demi-heure, je suis un peu dans un mode bizarre. Bah ouais, en fait, tu t'es un peu reposé tout en étant en activité quoi. Mais je dirais que bon, ça c'est vraiment.
Du coup, tu vois rien, t'as aucun souvenir des 30 minutes passées, tu te souviens absolument pas de ce qui s'est passé, de ce que t'as vu.
C'est comme un trou noir un peu, ouais. Un trou noir.
Quand même. Il t'a fallu combien de temps pour être vraiment à l'aise et éventuellement, alors déjà, combien de temps il t'a fallu pour être vraiment à l'aise avec cette gestion du sommeil, avec ces blocs d'1h30, avec ce, ou en tout cas à l'appréhender, le comprendre. Il t'a fallu combien de temps? Combien d'essais, d'erreurs en nombre d'épreuves, en années, en mois, en je ne sais pas comment tu le comptes toi?
Moi, écoute, j'ai commencé les épreuves comme ça en 2009. Je dirais que ouais, il m'a bien fallu 4-5 ans avant de que ça soit pas un souci entre guillemets, que d'être serein avec ça, tu vois. Je suis très très serein depuis le Covid où je suis parti sur des trucs solo, où j'ai vraiment expérimenté moi cette gestion du sommeil personnellement. Mais voilà, ouais, il m'a bien fallu 4-5 ans avant de savoir ce qui était bien pour moi ou pour l'équipe, de comprendre un peu le truc. Bon, voilà. Là, aujourd'hui, je dirais pas que. Je dirais que voilà, faire des grosses erreurs à ce niveau-là, ça n'arrivera pas. Ou alors, c'est la course qui t'emmènerait dans un faux pas, quoi, tu vois. Là, on était en bagarre avec les Suédois et les Estoniens pendant 4 jours. Et puis, les Estoniens, ils ont explosé les dernières 24 heures. Ils ont perdu 10 heures en 24 heures. Et certainement parce que j'en ai pas discuté avec eux, mais je pense qu'ils ont mal géré le sommeil sur la deuxième partie de course. Et du coup, ils étaient à la bagarre avec les Suédois juste devant nous. Ils se sont tirés la bourre dans le non-sommeil. Et à un moment donné, bah, ils ont explosé, quoi. Et là, quand t'exploses, c'est méchant, quoi. Tu perds énormément de temps. Et tu vois, mais et pourtant, c'est du haut niveau, hein. Les mecs, ils sont pas novices. Mais des fois, la course t'emmène dans des chemins dangereux, périlleux. Les Suédois, c'est pareil. Ils avaient 7 heures d'avance sur nous et ils ont perdu 4 heures sur la dernière section. On revient à 3 heures, tu vois. Il y aurait eu 24 heures de plus, ils explosaient complet, quoi. Alors que nous, on a fait vraiment attention de dormir beaucoup dans cette seconde partie de course. Donc c'est, voilà. Des fois, la compète aussi te fait faire des erreurs. Tu perds la lucidité.
Bah, de toute façon, même si vous aviez rattrapé les Suédois, vous n'auriez pas été champion du monde puisque vous avez loupé une balise.
Ouais, c'est la dure loi de notre sport. On a, on a des points de passage obligatoires avec des balises plus ou moins cachées. Et puis il y en a une, on pensait qu'elle avait été volée, qu'elle n'était pas au bon endroit. Enfin bref, on a cherché pendant une demi-heure. On avait juste mal reporté exactement le point sur notre carte. Et du coup, on l'a cherchée à 20-30 mètres à côté du sentier, puis elle était à 100 mètres. Et du coup, en toute bonne foi, on s'est dit, bon, on va prendre une photo de l'endroit. Et puis, effectivement, on était au bon endroit, si tu veux. Mais on est pas... Et du coup, le règlement est hyper dur parce que sur 5 jours de course, voilà, cette petite erreur de 50 mètres nous a mis, quoi qu'il en soit, hors course. Alors, on a continué la course pour nous, comme si tout était normal, même si on avait cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Mais on a gardé l'énergie, l'envie de faire notre course et de nous prouver au moins à nous-mêmes de ce dont on était capable. Alors, on a été jusqu'au bout avec cet état d'esprit-là, même s'il y a une grosse amertume de ne pas être officiellement vice-champion du monde.
Bon, je t'avais déjà posé la question, tu m'y avais répondu, mais bon, il n'y avait que toi et moi au téléphone, on va reposer la question pour les millions d'auditeurs et d'auditrices.
Voilà.
Pourquoi tu ne viens pas nous emmerder? Non, non, mais en toute humilité, un million, hein, tu sais, ça se compte en millions, c'est une évidence. Hein.
Parfait.
J'ai jamais compté, mais j'en doute pas une seule seconde.
Je vais augmenter mes followers sur Instagram.
Tu peux ouais, exactement. Et tu peux commencer à citer tes sponsors, hein, si tu veux. Je pense qu'ils vont adorer. Ils vont te renvoyer un bandeau gratos avec ça. Quand est-ce que tu viens nous embêter sur les ultras à vélo? Parce que, bon...
Je regarde un peu vos épreuves, là, de temps en temps, quand j'ai des copains qui participent. C'est intéressant. Moi, surtout, depuis 25 ans, je voyage à vélo en famille, en mode un peu bikepacking, là, tu vois. J'ai fait beaucoup avec mes enfants. J'avais des remorques, des chariots. Donc, le voyage à vélo, je suis très, très fan et je suis équipé, tu vois. Sur les épreuves d'ultra, comme vous faites, vous, pour l'instant, ça m'attire moins que les ultras à pied ou les raids aventure. Je vais peut-être attendre d'avoir une bonne blessure qui m'empêcherait de faire ça à pied ou autre, tu vois, ou j'en sais rien. Peut-être un peu plus tard. Je pense que je viendrai essayer, ouais. Je viendrai essayer parce qu'il y a des belles traversées qui sont hyper excitantes. J'ai un copain, Christophe Aubonnet, là, qui est un raider, qui en fait, je lis toujours ses comptes rendus d'aventure avec attention et intérêt. Donc, un jour.
Génial. Écoute, je vais devoir te laisser parce qu'il est 17h15 et je dois aller chercher les deux fripouilles au centre aéré. Donc je vais te laisser pour la minute de solitude, je te la résume rapidement. Je vais couper mon micro et ma caméra pendant un instant. Toi, tu dis ce que tu veux, absolument. Tu restes devant ta caméra, tu fais passer le message de ton choix. Et quand tu as terminé, je rallume ma caméra et mon micro, on se dit au revoir, je coupe l'enregistrement.
Ah, c'est de la... Et puis voilà. L'impro là, ok.
C'est clair pour toi? C'est cool? Ouais, ouais, non, bah attends, t'as l'habitude, ça va. La gestion de l'imprévu, c'est ton truc, ça.
Ouais, bah. Ce que j'aurais envie de dire à tous les auditeurs, surtout sur les auditeurs de ce podcast, c'est que. Eh ben, il faut y aller si on a envie de tester des formats qui nous sont inconnus. qui nous font rêver, ben, il faut y aller, il faut vivre ses rêves et pas rêver sa vie, c'est pas de moi. Je crois que mon expérience fait que je me suis jamais fixé de limite, en fait, dans les défis que je me lançais, en me disant toujours que je pourrais le faire. Et que si je n'y arrivais pas, ben, c'était pas grave, au moins j'aurais essayé, quoi. Donc je pense que voilà, cette philosophie-là, je la trouve, j'essaie de la communiquer à mes élèves, moi, parce que je suis prof de PS et j'ai des élèves à qui je donne ces conseils-là, de jamais se fixer de limites, de croire en soi. Quand un élève me dit, ben, j'y arrive pas, monsieur, je lui dis, ben non, t'as pas essayé. Donc vas-y, pousse les choses, fais-les à fond, va au bout de ce que t'as entrepris, et puis si t'as réussi, tu seras fier de toi, ça donnera une énorme confiance en toi pour d'autres objectifs ou d'autres défis. Et si t'as pas réussi, ben, t'auras tout mis en œuvre pour le faire, et c'est pas grave. Voilà, moi, je crois que l'important, c'est d'avancer dans la vie, de toujours essayer d'explorer, d'être curieux. Et voilà, j'invite tous les auditeurs de ce podcast à ne pas se fixer de limites et à explorer des nouveaux horizons. Voilà, explorer des nouveaux horizons, n'ayez pas peur.